avant de commencer le message, on va prier.
Heavenly Father, we thank you for the truth of your word and for the power it has to confront us and to change our thinking and to transform us.
Notre Père Céleste, on te remercie pour la vérité de tes mots et le pouvoir qu'a tes mots à nous confronter à ce que tu essayes de nous dire pour changer nos vies.
And so we pray that this evening, as we look at these words together, that you will draw near to us by your Holy Spirit and that you will work in our hearts.
Et donc on prie pour que ce soir, tu te rapproches de nous à travers ton esprit.
We know that there are many attitudes and things in our character and personality that need to change.
On sait qu'il y a beaucoup de choses dans notre caractère et notre attitude qu'on doit changer.
And we know that you've called us to be holy and complete and perfect and to walk worthy of your call.
Et on sait qu'on est appelé à devenir saint et à être parfait et complet et à marcher dans la voie que tu nous as donnée.
And so we pray that you would help us by your Holy Spirit. Forgive us all that is past and renew us, we pray, for Jesus' sake. Amen.
Donc, on prie que tu nous pardonnes tous nos offenses et que tu nous mènes dans le futur. Amen.
Okay, so this is the bit where I freak Sophie out a bit because I thought of something that I forgot to put in my little set of notes I sent to her. But too much paper. Last week we were looking at how the beginning really of chapter 4, and we were looking at how the church, by church we mean every Christian, the people who belong together because they belong to Jesus, are called to maturity.
Donc la semaine dernière, quand on regardait le début du chapitre 4, on a vu comment l'Église, donc les personnes chrétiennes, sont appelées à devenir matures.
And that word maturity is an interesting word because it has also the idea of being complete.
Et ce mot de maturité est intéressant parce qu'il y a aussi l'idée d'être complet.
And also of being perfect.
Et aussi d'être parfait.
And Paul says this not to us so that we would pursue that in an individualistic way, you know, like by going and living on top of a stick or in a cave somewhere and hiding from the whole world. It's often a way of finding peace, isn't it, I suppose.
Et ils nous disent ça non pas pour qu'on se réfugie de tout le monde et qu'on aille vivre dans une cave quelque part pour essayer de retrouver la paix.
Because holiness is a group project.
Parce que la sainteté, c'est un travail d'équipe.
Has anyone here ever done a group project?
Est-ce que vous avez déjà fait des projets en équipe?
If you've ever done a group project, and most of us have done group projects, it begins when you're really small, doesn't it, group projects? Then you need to know that holiness is a group project.
Donc pour la plupart d'entre nous, on a commencé à faire des projets de groupe quand on était assez jeunes. Et donc la sainteté, c'est comme ça, c'est un projet de groupe.
That's why Paul stresses unity so much, a being one.
C'est pour ça que Paul met vraiment l'accent sur l'unité et sur le fait qu'on doit être un.
And that made me think of something the other day, because it's really hard to be one and to bear with one another in love, isn't it?
Et en fait, c'est dur parfois d'être un et de
supporter.
Ouais, de supporter les uns et les autres.
Because after all, my kind of amusing little quirks are your annoying kind of madnesses. Folly, craziness.
Parce que mes petits, les parties de ma personnalité qui sont drôles et un peu spéciaux, pour toi, ça peut être des choses vraiment énervantes.
And the things that you think are nothing, to me, they drive me nuts.
et peut-être pour vous des choses où vous pensez que c'est rien, nous ça nous rend complètement fous.
And that is why God has called us to be one in the Lord Jesus Christ, because together we can become holy. We'll never become holy on our own. It's just not going to work.
Et donc c'est pour ça que Dieu nous a appelés à être un en Jésus, parce qu'on ne peut pas devenir saint tout seul.
We leave ourselves too much slack.
On se donne trop de on n'est pas assez sévère avec soi-même.
Voilà. And so holiness is a group project.
Et donc la sainteté c'est un projet de groupe.
And holiness comes as we serve each other.
Et la sainteté vient quand on sert les uns et les autres.
And that's really important. That's the theme of this next little section that Paul talks about now.
Et donc ça c'est le thème de cette partie du passage qu'on va voir aujourd'hui.
Because holiness comes as we serve each other.
Parce que la sainteté vient quand on sert les uns et les autres.
And we serve by using the gifts that the Lord Jesus Christ gives to every single Christian.
Et on sert en utilisant le don que Christ a donné à chaque chrétien.
So, gifts are for service. Jesus' gifts are for service.
Donc les dons, c'est pour le service. Les dons de Jésus, c'est pour servir.
Or to say it the way Paul says it in 1 Corinthians 12, I think it is. He says, the manifestation, and this is one that I memorized, okay, so I'm sorry about this. I should have given you the reference, shouldn't I? The manifestation of the Spirit is given for the common good. It just rings in my head, you know? That the Holy Spirit is not given so that we can have a good time, it's given so that we can serve one another and for the common good.
Donc un passage dans 1 Corinthiens 12 dit que la manifestation de l'Esprit est pour le bien commun. Donc c'est utiliser ses dons, ce n'est pas pour s'aider soi-même, mais pour servir les autres.
Okay, so this evening is going to be really easy structure, okay? We're going to look at the giver, we're going to look at the gifts, and we're going to look at the goal. The giver, the gifts, and the goal. I was pleased when it starts to say that.
Donc ce soir, on va voir, ça va être très simple, on va voir le donneur.
Donateur.
Le donateur, le don et l'objectif, le but.
Ouais. We've got this really interesting quote that happens in verse 8. So I'm just going to read verse 7 and verse 8. I'll probably read verse 9 and 10 as well, okay? And then we'll let Sophie read verse 7 to 10 too. But to each one of us, grace has been given as Christ apportioned it. This is why it says, when he ascended on high, he took many captives and gave gifts to his people. What does he ascended mean, except that he also descended to the lower earthly regions? He who descended is the very one who ascended higher than all the heavens in order to fill the whole universe.
Donc, on va répéter les versets 7 à 10. Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté dans les hauteurs, il a emmené des prisonniers et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi d'abord descendu dans les régions les plus basses de la terre. Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers.
So Paul here is quoting Psalm 68, and he has in mind a particular image that he would have been kind of familiar with. Whether he would have seen one, I don't know, but he would have known what it was.
Dans ce passage, Paul il fait référence au Psaume 68, qui a une image assez distincte que peut-être les personnes autour de Paul connaîtraient.
And the picture that Paul has in mind is of a Roman triumph.
Et donc l'image que Paul a en tête, c'est l'image du triomphe romain.
Anyone studied a Roman triumph? I imagine kids do it in school, Roman triumphs and stuff.
Est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà étudié le triomphe romain quand ils étaient à l'école?
Have you done triumphs? Leaving aside whether we study triumphs or not, what would happen with the Romans, right? is when their general made a big conquest and returned to Rome, he would be voted by the Senate a triumph. They would award him a triumph, and it was a great honor.
Donc ce qui se passait en fait, c'est quand un général a fait une grande conquête et qu'il revenait à Rome, le Sénat votait pour l'accorder un triomphe. Et donc c'était un grand honneur d'avoir un triomphe.
And it was a procession. So the army, the kind of general at the head and the army behind, and then all the captives that they'd taken and all the loot, the booty, the plunder that they had would all line up outside Rome.
Et donc c'était une grande procession.
Oui, un défilé.
Un défilé. Ouais. C'était un grand défilé avec toute l'armée, tous les prisonniers qu'ils avaient et tous les objets qu'ils ont trouvés là-bas, tous les trésors qu'ils ont amenés.
And in the streets of Rome, they would start burning incense and making really nice smells, so the whole city smelled nice. I imagine Rome normally didn't smell very nice, but it did on these occasions.
Et dans les rues de Rome, il y avait de l'encens partout et ça donnait une bonne odeur partout dans la ville.
And they would start playing the tuba because they played the tuba in Rome in those days. And the procession would enter the town.
Et donc ils jouaient aux instruments et en venant dans la ville.
And all the people would kind of come out in the streets and wave and cheer, and there was a particular reason why they would do it.
Et donc tout le monde sortait de leur maison pour venir les voir et pour applaudir et les voir.
And this, the particular reason would be familiar to anyone who's been to see the Tour de France arrive. Anyone been to see the arrival of the Tour de France?
Et donc la raison pour laquelle ils ont fait ça, c'est un peu similaire au Tour de France. Donc est-ce que vous avez déjà assisté à l'arrivée du Tour de France?
What happens when the Tour de France arrives? Anyone under the age of 25?
Donc qu'est-ce qui se passe à l'arrivée du Tour de France? Est-ce que vous savez?
Anyone know what happens when the Tour de France arrives? Anyone between 25 and 40?
What's that? Lots of cheering.
Oh, okay. Anything else? Anything else? Okay, anyone over the age of 40? Sorry, I shouldn't do that, should I? I'll say then, because I don't mind admitting I'm over 40. They have what they call the caravan. The caravan arrives, and they start throwing things into the crowd. I mean, to be honest with you, it's... Sorry?
Amazing.
It's amazing, but it's a joke, basically. They throw T-shirts, they throw caps, they throw little bits of sausage in packages, bottles of water. What else do they throw? Washing powder. They threw washing powder into the crowd. What else do they throw? Anyone? Did you catch pens and keychains? Yeah, sorry, that was a lot.
No, it's fine. Et donc, ce qui se passe à l'arrivée du Tour de France, c'est qu'il y a une caravane qui arrive en même temps et qui lance plein de petits cadeaux à tout le monde qui est de tout le monde à côté. Et donc, c'est des choses pas tellement intéressantes, mais ça peut être bien avec des t-shirts, des chapeaux, des stylos, des trucs comme ça.
Yeah, I was going to wear my Tour de France cap that I have at home and I forgot to bring it. But in a Roman triumph, it was better than that because they threw money. They threw money at the crowd. You know, you would fight to catch the money like we fought to catch our caps.
Mais pour le triomphe romain, c'était encore mieux que ça parce qu'ils lançaient de l'argent et donc on pouvait recevoir de l'argent si on était là.
And imagine you're a visitor in the city of Rome, and there's a triumph going on. You're going, what's going on? And they say it's a triumph. Generals come back from a great conquest. And you'd say, well, what has he done? What has he conquered? How did he conquer? And his gifts would reflect the conquest that he made.
Et donc si on était par exemple un visiteur à Rome et qu'on voyait toutes ces choses qui se passaient, on pourrait se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est un triomphe romain, mais c'est un général qui a triomphé dans une guerre, Mais on ne sait pas, enfin peut-être que le visiteur sait pas, ne sait pas vraiment ce, quelle guerre il a triomphé. Et donc, ce que font le cortège, c'est qu'ils lancent des cadeaux qui reflètent le triomphe qu'il a fait, ou la guerre en particulier qu'il a triomphé.
And so for Paul, when the Lord Jesus Christ ascended into heaven, it's kind of like a Roman triumph. He goes up into heaven to great acclaim, you know, people cheering and rejoicing because of all that he achieved on the cross. But more than that, he pours out gifts on everyone that believes in him. He pours out enormous gifts.
Et donc pour Paul, l'ascension de Jésus, c'est similaire au triomphe romain. Parce que quand Jésus est monté dans le ciel, tout le monde était très content, mais aussi Jésus, il a donné des dons, il a déversé des dons sur toutes les personnes de la terre.
The first thing that he did was everyone who believes in him, he pours out the Holy Spirit on them, so that God is at work in their hearts and lives with a transforming power that they never had before.
D'abord, tous ceux qui croient en Jésus, Jésus leur a donné l'Esprit Saint pour les aider et les renforcer. Et ils n'avaient pas l'Esprit Saint avant, et vraiment, c'était un grand don de Jésus.
But also, he pours out on them because he's the servant king, right? He's the king who came to serve his people. No king was ever like him. He pours out gifts of service on his people so that his people become a people who serve.
Et puisque c'était le roi de la servitude, comme aucun autre roi avant lui, ces dons qu'il a donnés à tout le monde, ce sont des dons de servitude.
So he gives gifts of service, like and the word that's often used for these kinds of gifts is the gift of waiting on tables. It's like being waiters. We serve in that sense.
Et donc un moyen de voir ces dons, c'est le don de service, comme les serveurs qui servent des tables.
I imagine that most of us have eaten somewhere where there is a waiter.
J'imagine que tout le monde a mangé quelque part avec des serveurs.
And the waiters, they're really valuable people, aren't they? Because they bring you your carafe of water, and then they bring you your food, and they lay the table for you, and they bring you everything when you need it. They're really good at their timing.
Et les serveurs, en fait, c'est super important parce qu'ils mettent le service et ils apportent de l'eau quand on a besoin ou les plats, et dès qu'on veut quelque chose et qu'on le demande, ils l'apportent, et donc c'est. Ouais.
Anyone ever eaten in a restaurant and been really, really pleased with the food?
Est-ce que quelqu'un a déjà mangé à un restaurant où vous étiez vraiment très content de la nourriture?
Did you say my compliments to the waiter?
Est-ce que vous avez déjà dit mes compliments au serveur?
Nobody's ever said that. Isn't that weird? Isn't that weird that we don't say my compliments to the waiter?
Et est-ce que c'est pas un peu bizarre qu'on n'a jamais donné qu'on n'a jamais dit mes compliments au serveur?
What do we say if we're going to send our compliments? What do we say?
Donc qu'est-ce qu'on dit si on veut donner des compliments?
That isn't rhetorical, by the way. Anyone of any age can answer.
The compliments to the chef.
Yeah, compliments to the chef. Here we go. Let's serve so that people give compliments to the chef.
Donc la plupart du temps, les gens disent mes compliments au chef. Donc pour nous, on doit faire il faut qu'on serve pour que les personnes disent mes compliments au chef.
And the chef, you know, the chef is kind of like la tête. He's the Lord Jesus Christ, of course. He's the one who gives gifts of service to his people, so that people see it and they praise him.
Et donc la tête, c'est bien sûr Jésus, qui a donné les dons de service pour que les gens le voient. À travers nous.
So in the Church of Jesus Christ, there's something about it that reflects what he's like. And what is he like? He's the Almighty God who comes in humble service. So humble service is the key.
Donc l'Église de Jésus reflète qui il est vraiment. Et qui est-il vraiment? C'est le grand roi qui sert humblement.
So humble service is the key, okay?
Donc le service humble, c'est la clé.
So that's the first thing, the giver.
Donc ça, c'est la première chose, le donateur.
Second thing, the gifts.
La deuxième chose, c'est le don.
And look at what Paul says in the beginning of verse 7. Well, the whole of verse 7, really. He says, but to each one of us, grace has been given as Christ apportioned it.
Donc dans le verset 7, on voit à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ.
So, the Lord Jesus Christ, in his wisdom and his skill, he gives each of us different gifts in order that we can serve one another and so bring glory to him.
Donc, Jésus-Christ, il a donné, dans sa sagesse, il a donné des dons différents à chacun d'entre nous pour qu'on puisse servir, pour lui rendre gloire.
Now, you say, okay, so what kind of gifts? Well, there's a vast variety of gifts.
Et donc, on dit, okay, mais quel type de dons? Il y a énormément de types de dons différents.
So, different lists are given in the New Testament, okay? But no one list has them all.
Donc ils sont listés à des moments différents dans le Nouveau Testament, mais aucune de ces listes n'a tous les dons.
And you'll find lists in Romans 12, which we'll get to soon on Wednesdays.
On va voir ça dans Romains 12, qu'on va voir bientôt les mercredis.
When I say soon, I don't know how soon, but kind of like one day. You'll find another list in 1 Corinthians 12.
Il y a une autre liste dans 1 Corinthiens 12.
And also in 1 Peter, you'll find a list of different gifts.
Et dans 1 Pierre.
But I think the point is not for us to make one list of all these different gifts and then decide which one, like choosing from a menu. I don't think that's the idea at all.
Et donc le but, c'est pas de faire une grande liste de tous les dons et de choisir parmi eux comme un menu.
It's rather to marvel at God's ability to give us gifts to enable us to serve where there is a need.
Mais plutôt, et on peut s'émerveiller sur la capacité de Jésus à donner des dons qui nous permettent de servir dans la situation qu'on est.
And here, when Paul is talking about gifts, he puts the particular emphasis on certain types of gifts.
Et ici, Paul met un accent sur un certain type de dons.
He puts the emphasis on the message of salvation, the centrality of the message of salvation.
Il parle vraiment de l'importance du message du salut.
So, in all our different gifts, we serve one another, but always with an aim that the message of salvation would be at the center of everything that we do and say.
Donc, avec tous ces dons, on sert les uns les autres, avec comme but central le message du salut de Jésus.
And we see that in the little list that Paul gives us here in verse 11.
Et on voit ça dans la petite liste qu'il nous donne verset 11.
And can you see there are gifts of revelation where God speaks his word to us. And Paul says Christ himself gave the apostles, the prophets. These are people who revealed God's word.
Il y a par exemple le don de la révélation, où Dieu nous révèle ses mots et il nous parle à travers, par exemple, les apôtres et les prophètes.
There are also gifts of, and I'm going to use this word, I'm not very happy with it, but I'm going to use the word proclamation, where the message of salvation is announced to people who didn't know it before.
Et il y a aussi le don de proclamation où le message de Jésus est proclamé aux personnes qui ne le savaient pas avant.
So for example, or not for example, Paul says, Christ gave the apostles, the prophets, the evangelists. And what he's talking about there is not so much the people who wrote the four gospels, it's more people who share the message of the gospel with people who haven't heard it before.
Et donc c'est ce dont il parle quand il nomme les évangélistes. Donc les évangélistes, c'est pas seulement les personnes qui ont écrit
les quatre évangiles,
mais c'est toute personne qui parle du message de Jésus aux personnes qui n'en ont jamais entendu avant.
For example, and this is a little aside, okay? In Acts, you can read about Philip, who was an evangelist, the evangelist Philip. And you find Philip in Samaria, in a city, proclaiming the message of the gospel in the city. But afterwards, you find him talking to a high official from Ethiopia, one-to-one. And so it's kind of like that. It's very flexible. It's really sharing the message of the gospel with people who have not heard it before. Could be a crowd, could be one person, could be one-to-one. And we can all do that, can't we?
Et on peut voir ça par exemple Philippe qui était un évangéliste donc qui était en Samarien qui proclamait qui évangélisait à des foules de personnes, mais on le voyait juste après aussi parler avec, personnellement avec une personne du gouvernement éthiopien. Et donc ça veut dire que le don d'évangéliste, en fait, ça peut être à parler du message de Jésus à une grande foule de personnes, ou avec une personne un sur un, juste parler de ce qu'on sait. Et donc c'est quelque chose que tout le monde peut faire en réalité.
Obviously in different ways, like, I mean, you know, not many of us could stand in front of a football stadium and give a really powerful gospel message. But if someone comes to us and says, why do you talk like you do? Why are you so cheerful? You can say, well, kind of, it wasn't always like this, but I believe in Jesus now. That can be the key.
Et donc on a tous des capacités différentes, et donc c'est normal si on peut pas tous proclamer devant un stade de foot entier. Mais si par exemple quelqu'un vient vers nous pour nous demander pourquoi on est comme on est, on peut dire, ben, on n'a pas toujours été aussi joyeux, et c'est juste parce qu'on connaît Jésus maintenant.
So, gifts of revelation, apostles and prophets, gifts of proclamation, evangelists, but then gifts of edification. And there we're talking about gifts that build people up. And Paul talks about pastors and teachers.
Donc il y a les dons de...
L'édification.
Oui, après les dons de proclamation, il y a aussi les dons d'édification, où ça veut dire en fait les personnes qui construisent.
And so... Here, there are gifts that are designed to build people up and build people together, which is what the role of pastors and teachers is doing, kinda.
Et donc c'est le rôle, par exemple, des pasteurs et des enseignants qui, pour d'une certaine façon, construit les personnes pour devenir un.
Why do I say kinda? Well, the role of the pastors and teachers is a rather weird one. Their role is to equip every Christian so that every Christian can serve, so that the church can be built up. So it's kind of like a chain, you know? Here are the pastors and teachers, and they past and they teach. I don't know where the pastors are like that. But anyway, they do what pastors do. They pastor and they teach so that every saint is equipped to serve one another so that the church is built up together.
Et donc le rôle des pasteurs et des enseignants, c'est un peu plus spécifique, où en fait ils enseignent pour que les personnes de l'église soient équipées pour servir à leur tour.
And so in that way, Paul is really kind of he's if I can put it this way, and this isn't in my notes either, sorry Sophie, I'm laying big trouble on you today, but hey, you're used to it. There's a sense in which the motor of the church is the word of God, okay? The Bible is the motor of the church.
Donc on sait que la parole de Dieu, c'est le moteur de l'Église.
And that word of God, as it's taught, as it's shared, as it's proclaimed, produces in people this service that builds up the church.
Et donc cette parole, quand elle est enseignée et partagée, aide les personnes pour construire une église ensemble.
And so here is a church of Jesus Christ where everyone is, in theory, being equipped and being helped in order that they can serve using the gifts that Jesus gave them and build one another up so that we grow in unity and in holiness together.
Et donc tout le monde dans l'église et avec la parole de Dieu, on est équipé pour pouvoir servir et se construire entre nous et construire l'Église pour montrer la gloire de Dieu.
And so that's the giver and the gifts. Okay, now we got to the goal.
Donc on a vu le donateur et les dons. Maintenant on va voir le but.
So the goal. The goal is that all should be filled and equipped and built together. Look at verse 13. Until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ.
Donc quel est le but? Le but c'est qu'on soit tous équipés dans le
verset 13.
Dans le verset 13, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ.
We're like the Marines, we never leave no one behind.
On est comme les marins.
La marine.
La marine. On ne laisse jamais quelqu'un de côté.
If we don't all make it, then we don't all make it. We all got to make it together.
Si il y a un d'entre nous qui ne peut pas arriver au but, aucun d'entre nous peut y arriver. Si on y arrive, c'est tous ensemble.
And Paul says we all reach unity.
Et Paul il dit nous devons tous atteindre l'unité.
And I want to point out something really important about what Paul says about unity.
Et donc on va voir quelque chose de très important que Paul dit par rapport à l'unité.
He doesn't say until we all reach unity in the organization.
Il dit pas jusqu'à ce que nous atteignions tous l'unité dans l'organisation.
Which is the way that we tend to think. We're very much kind of like, because we still think in a modern kind of way. We're into processes and structures and all that kind of thing.
Et donc c'est peut-être pas ce qu'on pense dans l'unité ou avec les pensées modernes d'aujourd'hui avec plein de process et de façons de faire.
When I say we're modern, I mean as opposed to postmodern, okay, but it doesn't matter that much. Paul isn't thinking like that. Paul is first century and he's thinking what we need is unity in the faith.
Donc Paul, il pense pas comme ça, s'il était au 1er siècle, et il dit en fait, on a besoin de l'unité dans la foi.
We all understand together who it is we trust. We know who the Lord Jesus is. We know all about him. We understand who he is and the greatness of his character and his person and all that he's done for us.
Il faut que tout le monde ait la connaissance et croit vraiment en qui est Christ et sa grandeur et tout ce qu'il a fait pour nous.
And that's why we spend so much time talking about the Lord Jesus Christ and all the things he's done, why we come back to the communion table time and time again, because that is that's how we're saved, isn't it? We're saved by the Lord Jesus Christ.
Et donc c'est pour ça qu'on passe tellement de temps à parler de ce que Jésus a fait pour nous et qu'on fait la communion toutes les semaines parce que c'est le message central.
But we're not just saved by being able to answer an exam question, what is Eutychianism and show why it is false, okay? I don't know whether anyone here could answer that question without looking in Wikipedia to find out what Eutychianism is. And I certainly couldn't, and I know I studied it at one time, but I have no idea now what Eutychianism was, or why it was false. Sorry, that's a googly to the bowl at you.
Et donc le salut...
you can leave out Eutychianism, just say it's not passing exams.
Oui, et donc le salut, en fait, ça ne vient pas de connaissances qu'on peut avoir et de bien répondre à des examens.
Because believe it or not, you know, God is not going to set us an exam to see whether we get into glory by the correctness of our beliefs in the Lord Jesus Christ.
Parce que Dieu, en fait, enfin, on va pas atteindre la gloire quand si on arrive à répondre à toutes les questions et qu'on a des bonnes notes.
And that's why Paul says, till we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God. That's why Paul says, until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God, it's in verse 13.
Et donc c'est pour ça que Paul dit, jusqu'à ce que nous tous, on atteint l'unité dans la foi et dans la connaissance de Jésus.
Because knowing about Jesus is in order that we might know Jesus.
Parce que on connaît des choses sur Jésus pour qu'on puisse le connaître vraiment.
So it's not so much being able to recite the Nicene Creed, although being able to recite the Nicene Creed is a wonderful thing. And it's not just being able to answer exam questions about kind of third century heresies or whatever. It's about having a heart dependence and trust in Jesus day by day.
Et donc c'est, ça vient pas enfin le salut ne vient pas en quand on sait dire des choses par cœur ou si on sait répondre à des questions d'histoire, mais c'est en ayant un cœur qui dépend et qui croit en Jésus et qui se base sur lui tous les jours.
So every day we trust him. Every day we love him. Every day we're committed to him. Every day we know that he'll bring us home. Every day we know that he's our savior. And not just kind of like, oh yeah, I know that he's our savior, like I know that Macron is the president of France. It's that sense of dependence and trust.
Donc tous les jours on l'aime et tous les jours on a confiance en lui et tous les jours on sait qu'il est notre sauveur et on le sait pas comme juste on sait quelque chose mais on le sait vraiment, on croit en lui et c'est
une dépendance.
Oui, il faut vraiment qu'on soit dépendant sur lui tous les jours.
And so somebody is in trouble. They are sick. We say we'll pray for you. We'll pray that Jesus will be at work in your life and that you'll get better. Or that if you don't get better, that you'll be strengthened through it. Because whatever doesn't kill you makes you holy.
Et donc, si quelqu'un, par exemple, est malade et, ou si quelqu'un a des soucis, on dit qu'on prie pour cette personne et on prie que soit Jésus peut le guérir, soit que cette personne, soit que tu peux être rendu fort avec cette épreuve. Parce que tout ce qui ne nous tue pas nous rend sains.
With apologies to Nietzsche. When we are facing difficulties in our family, we say, well, we'll pray, because Jesus can change people's hearts. But if the problems continue in our families, those problems can make us holy too.
Et donc si on a pas aussi, par exemple, des difficultés avec la famille, on prie parce qu'on sait que Jésus peut transformer les cœurs des personnes.
And you can substitute kind of whatever kind of difficulties you face in life. And also our joys. When things are going well, we pray for one another that we won't just get sucked into, oh, the good life in Bordeaux, but that we'll remember that we have the good life in Bordeaux because Jesus loves us and gives us good things every day.
Et donc c'est pareil avec toutes sortes de difficultés qu'on peut avoir, mais c'est aussi pareil quand on a la joie et quand il y a des bonnes choses qui arrivent. Et donc on prie pour qu'on ne soit pas content juste avec notre vie, mais qu'on sait que la joie et les bonnes choses qui nous arrivent, c'est grâce à Jésus.
So Paul says, until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, and there's that word again, that maturity, that completeness, that perfection, that, I'm going to put it like this, reaching the target. Yeah, reaching the target, that communicates to us. We all want to be more productive, don't we? And reach our targets. What targets have you set for this year? Will you reach your target? Well, here is the target that God has set for you.
Donc, Paul dit bien, jusqu'à ce que nous parvenons tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte. Et donc, la maturité, c'est en quelque sorte le but que nous donne Dieu.
So what is your target? This is your target for this year, okay? Adopt this as your target, as your goal for 2024, all right?
Et donc ça, c'est votre but. Si vous n'avez pas encore de but pour l'année de 2024, ça peut être votre but.
So are you ready? It's the end of verse 13. Attaining to the whole measure of the fullness of Christ.
Et donc, qu'est-ce que c'est le but? C'est que nous parvenons à la mesure de la stature parfaite de Christ.
That's some goal, isn't it?
Can you repeat it one more time?
Yeah, attaining to the whole measure of the fullness of Christ.
Donc pour répéter, parvenir à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est un petit peu différent en anglais français.
Oui, tout à fait. There's no higher goal than that. You can't aim higher.
Donc il n'y a pas de but plus grand et plus haut que ça.
But anything less is not worthy of your calling.
Mais moins, ça ne
c'est pas digne de...
n'est pas digne de l'appel qu'on nous a donné.
So that is our goal. That is what we're aiming for. If we're going to be productive this year, it means us getting there.
Et donc ça, c'est notre but. Si on veut être productif cette année, il faut que ça, ça soit notre but.
So we're going to a close, okay? I've got a couple of short, punchy, practical points.
Et donc, on arrive vers la fin, et il y a quelques choses pratiques qu'on peut faire.
First thing, don't settle for anything less than Christ-like.
Première chose, ne vous contentez pas de moins que être comme Christ.
That is your goal, is to be Christ-like, to be like the Lord Jesus Christ. Don't settle for anything less.
Ça, c'est votre but, d'être comme Christ. Donc, ne vous contentez pas de moins.
Okay. Second thing. Don't forget that for the Lord Jesus Christ, the way up was down. Yeah? For him to ascend, he descended to the very lowest levels. So for you as well, the way up is down. Humble service. That's the way to get there.
Deuxième chose, Jésus pour monter, il a dû descendre. Et donc pour nous c'est pareil. Il faut qu'on sert humblement parce que c'est en descendant qu'on peut monter.
Third thing, don't forget to make sure all the compliments go to the chef.
Troisième chose, n'oubliez pas que tous les compliments doivent aller au chef.
Don't take the spotlight off Jesus. And don't try and put yourself in the spotlight. It's an ugly, ugly thing.
N'essayez pas de vous mettre dans la lumière au lieu de Christ.
And then lastly, try and get into this different way of thinking. Because all the time we think, yeah, but what does that mean for me? What does that mean for me? What does that mean for me? And we're trained. We're immersed in individualism. We're trained to be individual. Instead of thinking me, think the church. And instead of thinking gifts, express, think service. How can I serve people? What needs are there that I can help with by the abilities that Jesus gives me?
Et donc, une autre chose, il faut qu'on change vraiment la façon dont on pense, parce qu'on peut, on peut facilement penser dans notre société individualiste, mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Et moi, qu'est-ce que ça me donne à moi? Et donc, au lieu de penser à moi tout le temps, il faut penser à l'Église. Et au lieu de penser à tous les dons qu'on peut recevoir, il faut penser aux services qu'on peut donner.
Because the strange thing is, and remember, I said this last week, scientists have started to discover this, that the way to a happy, healthy, and long life is to think about other people and to serve other people. And people who do that live longer, healthier, and happier. Isn't that weird? But it's true.
Et les scientifiques commencent à trouver que, en fait, une des clés pour avoir une longue et une bonne longue vie, c'est de penser, de servir les autres.
To us, that seems weird, but nevertheless, it's the thing that God teaches us in His Word.
Ça peut sembler un peu étrange, mais c'est ce que Dieu enseigne dans sa parole.
So we'll pray.
Donc prions.
Heavenly Father, we come to you Sunday by Sunday, so that you may reprogram us and change the way that we think.
Notre Père Céleste, nous venons à toi tous les dimanches pour que tu nous reprogrammes et que tu changes la façon dont on pense.
Because we don't think in a healthy, happy and long-living kind of way.
Parce qu'on ne pense pas d'une bonne et en santé et façon pour qui peut allonger notre vie.
And so we pray that you would help us to think differently so that we may live healthy, happy and holy.
Et donc, on prie pour que tu nous changes notre façon de penser, pour qu'on puisse penser des choses bonnes et saintes.
So that we may grow together in unity and in likeness to the Lord Jesus Christ.
Pour que nous puissions grandir en unité et pour ressembler à Jésus.
Until the day when we all attain to the whole measure of the fullness of the Lord Jesus Christ.
Jusqu'au jour où on atteint la mesure complète de Jésus.
Amen.
Amen.